Bonjour, nous sommes dans La vie est un roman. Nous sommes mardi matin et aujourd'hui nous allons rendre hommage à Jean-Pierre Buxou qui vient de mourir à l'âge de 79 ans. Et pour ce faire, je suis avec Laurent Chollet qui l'a beaucoup fréquenté, qui l'a très bien connu. Bonjour.
Bonjour.
Et donc vous voulez qu'on attaque tout de suite avec l'enfance bordelaise de Jean-Pierre Buxou ?
Avec plaisir.
Je vous en prie, allez-y.
Alors Jean-Pierre est né en janvier 1946, c'est un enfant du baby-boom, un baby-boomer, pour reprendre une cible récente de nos ex-dirigeants désormais. Il est né à Bordeaux et plus précisément du côté de la rive droite de Bordeaux, à Bassins, qui contrairement à ce qu'est devenu la rive droite aujourd'hui de Bordeaux, n'était pas un quartier, comme on dit aujourd'hui, favorisé. Il n'était pas couru par la bourgeoisie bohème, c'était un quartier ouvrier. Jean-Pierre va naître d'abord dans une petite maison. Son père est routier et il était toujours très ému quand il voyait les deux films avec Jean Gabin, où Gabin est routier, Des gens sans importance et Gazoil, puisque il me disait toujours, c'est très exactement, c'est un film très réaliste, très exactement mon enfance, la vie de mon père, ce routier qui s'est brisé les vertèbres et les reins, effectivement, à faire la route Bordeaux-Paris, à l'époque, évidemment, pas d'autoroute, bien sûr, et une absence totale de suspension dans les camions, ou à peu près. Et puis, donc, du coup, Jean-Pierre grandit avec ses sœurs.
Sa mère est à la maison.
Interdiction
de travailler.
Interdiction de travailler. Et puis, effectivement, très tôt...
Un frère et une sœur.
Alors, des sœurs, un frère aîné. Et puis, très tôt, une magie qui va s'opérer dans ce quotidien, c'est que, grâce à l'école, l'instituteur va les amener voir des films. Et parallèlement à ça, le dimanche, alors là c'est très, très cérémonial, très important, le dimanche, on passe de l'autre côté, on passe rive gauche, on va à Bordeaux, voilà, Bordeaux centre comme on dit, où il y a cette légendaire Bourse du Travail, où tous les dimanches, son père l'emmène à la Bourse du Travail, puisque la Bourse du Travail de Bordeaux est donc un bastion du mouvement ouvrier, possède une superbe salle de projection, qui est aussi évidemment en temps normal une salle de réunion syndicale, et le dimanche, avec son père, il voit des films. Et de fil en aiguille, voilà, commence l'émerveillement pour Jean-Pierre de ce cinéma qu'il est comme ça en train de découvrir. Et puis, ce qui est tout à fait évidemment logique et courant à l'époque, il y a là où il grandit, en fait, un cinéma de quartier, il y en a même deux d'ailleurs. Et donc, il va avec ses parents, avec son frère et ses sœurs, au cinéma, en famille. Ce cinéma de quartier où d'ailleurs on n'allait pas, voir un film. En fait, on allait dans cette salle-là parce que c'était celle d'à côté. Et où d'ailleurs, en général, comme il le racontait dans ma série Cinéphile de notre temps, le propriétaire de la salle connaissait tellement tous les habitants du quartier que s'il en manquait un à une séance, il s'inquiétait presque de sa santé. Donc voilà. Et c'est vraiment là que va naître chez Jean-Pierre Buxou, en fait, cette passion du cinéma qui va, entre autres passions, on va évoquer les autres aussi, bien sûr, mais elle va être certainement la colonne vertébrale, le fil conducteur de tout son itinéraire jusqu'à la fin.
Et donc, il arrête la scolarité assez tôt, il va travailler vers l'âge de 15 ans.
Il arrête la scolarité assez tôt, en effet, on aurait du mal à réaliser aujourd'hui que Bordeaux était vraiment un port, et qui dit port dit fret, dit bateau de marchandises, et donc dit docker. Et Jean-Pierre Buxou se retrouve adolescent sur les docks, et avec, je me rappelle une anecdote qu'il m'avait racontée, puisque j'ai rencontré Jean-Pierre Buxou en 1983, et on a assez tôt évoqué comme ça ces souvenirs qui étaient moins lointains pour lui à l'époque, naturellement. Et donc, une des premières choses que font les responsables des quais, c'est de lui donner une sorte de croc de boucher pour les rats, puisque les docks de Bordeaux, ce qui n'est pas très original, il y avait des rats, et des rats, me disait Jean-Pierre, pour certains, qui faisaient quasiment la taille d'un lapin. Et donc, bon, voilà, donc ça va être un moment de sa vie, effectivement, assez marquant, assez rude, assez dur. Et très vite, très tôt, de toute façon, lui a a des choses en tête qui sont évidemment assez éloignées de cela. Et comme par ailleurs, il avait été très bon élève en français, sa maman qui nourrissait beaucoup d'ambition de ce côté-là, en même temps lui dit un jour, bah, tu sais, on ne va pas pouvoir te payer des études parce que comme on n'a pas pu en payer à ton frère, ce serait injuste. Voilà, ça va être quand même assez marquant. Et du coup, il va falloir pour Jean-Pierre qu'il se débrouille. Qu'il se débrouille purement et simplement. Et là, on va faire une ellipse. Et assez vite, assez tôt, il va en fait réussir à rentrer comme jeune pigiste, comme petit pigiste à La France, qui était le grand journal à l'époque, le grand quotidien bordelais. Où effectivement il va là faire ses premières armes
de journaliste,
voilà, vraiment
chroniqueur local,
courant la pige, comme on dit.
Et donc c'est là qu'il va inventer un personnage qui va revenir plus tard, il va parsemer ses articles.
Alors c'est là qu'il va inventer le personnage de Georges Le Gloupier, effectivement, et qu'il va dans ses articles régulièrement attribuer à Georges Le Gloupier tout un tas de faits d'armes divers et variés dans tous les domaines possibles et imaginables, artistiques, sportifs, etc., etc. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à l'époque, personne, évidemment, la possible supercherie.
Et alors là, donc, on est à Bordeaux. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est le festival, c'est Sigma et puis Molinier. Alors, je ne sais pas par lequel il faut commencer, ouais. Des deux.
Alors, il y a quelque chose, peut-être, il faut le dire en préambule pour évoquer Jean-Pierre Bouixou, c'est que il va très tôt, en fait, je fais allusion à sa passion naissante pour le cinéma, mais des passions naissantes, et d'une manière générale des passions, il va en avoir beaucoup. Et il a certainement été l'antithèse du monomaniaque. Lui, comme moi, on en aura, et comme vous, on en aura croisé un certain nombre dans notre vie. C'est toujours, le monomaniaque peut être passionnant 2 heures, au bout de 3 ou 4, ça commence à être compliqué, et au bout du 2e rendez-vous, on étouffe. Jean-Pierre Bouixou n'a jamais été monomaniaque, puisqu'en fait, il avait un nombre de passions très grandes et un goût justement de la découverte, de la curiosité, de l'érudition, etc. Et il y a une autre facette qui prend forme à ce moment-là, dans la période dans laquelle on est, là, 1965-66, c'est un jeune homme, hein, il a 19-20 ans. Ça va être à la fois son intérêt pour la culture et l'art, et parallèlement à ça, son intérêt pour la politique. Il se trouve que Bordeaux possède à l'époque, comme évidemment nombre de villes, mais singulièrement Bordeaux, une antenne de la Fédération anarchiste, qu'il va donc fréquenter dès 1965, c'est-à-dire un des premiers films d'ailleurs qu'il fera en 8 mm à l'époque, sur le sujet. Et puis effectivement, parallèlement à ça...
Et donc vous avez vu ce film ?
Non, malheureusement, non, film perdu. Et parallèlement à ça, il y a effectivement un festival qui a été créé par Roger Lafosse, qui est le festival Sigma. À l'époque, le maire de Bordeaux, c'est Jacques Chaban-Delmas, qui est évidemment auréolé de son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale et est une figure assez tutélaire pendant les années 60 et au-delà d'ailleurs. Mais là, on est dans les années 60. On va dire du régime gaulliste. Chaban-Delmas n'avait pas l'ombre d'une illusion sur le fait que les gens qui faisaient le festival Sigma ne devaient pas voter pour lui ni appeler à voter pour lui. Mais il s'était dit, voilà, c'est certainement quelque chose d'important sans doute pour ma ville, donc il faut effectivement aider ce festival. Et il a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, bon, évidemment, c'est devenu, comme on dit, culte. Voilà, il y a eu des documentaires, des livres, etc. Mais le festival Sigma, pendant plus de 2 décennies, va voir arriver tout ce qui se fait de nouveau.
Il va y avoir, par exemple, le Living Theatre, qui aura une influence sur notre génération extrême.
Le Bread and Puppet, absolument. Des concerts de Soft Machine, ouais. Du free jazz, et Pink
Floyd. Le cinéma expérimental.
Et le cinéma expérimental. Et très vite, très tôt, Bouixou se lie d'amitié avec... Roger Lafosse, qui voit évidemment toute la motivation et déjà très tôt l'érudition de ce tout jeune homme qui effectivement s'intéresse à la bande dessinée, s'intéresse d'une manière générale au graphisme, au cinéma, à la littérature, à la poésie. Et c'est ce qui va l'amener à rencontrer le peintre Molinier. Pierre Molinier, donc, figure à l'époque, voilà, certes, revendiqué notamment par les surréalistes, mais qui n'a pas évidemment la notoriété et la cote qui sera la sienne plus tard, qui est un personnage dans tous les sens du terme. Et à l'époque, Molinier va d'ailleurs proposer à Bouixou d'être son modèle pour un certain nombre de créations. Et c'est ce qui va permettre de cette amitié qui va être pendant près de 3 ans marqué par presque des visites quotidiennes, des rencontres quotidiennes entre Molinier et Bouixou. C'est ce qui va permettre à Jean-Pierre Bouixou de tourner un film en 1965, « Ça t'embouche un coin », dans lequel il y a d'ailleurs la femme de Bernard Charder, le créateur de la revue Positif, donc Alice Charder. Il y a Colette Borde, la femme de Raymond Borde, le fondateur de la Cinémathèque de Toulouse. Il y a la fiancée et future première épouse de Jean-Pierre Bouixou. Et en l'occurrence, du coup, Molinier lui-même, il y a eu très peu de choses sur Molinier, puisqu'il y a eu un film de Raymond Borde, donc comme quoi on reste une sorte de logique, et puis un film de Noël Simsolo, mais tout ça tournait sur une période très courte, dans ce mi-temps des années 60, et qui est un film expérimental à une époque où le cinéma expérimental en France, son histoire est assez courte encore. Elle va se développer, elle va être florissante dans toutes les années qui vont suivre presque immédiatement. Mais à l'époque, on peut effectivement citer le film bien évidemment fondateur de Isidore Isou, Traité de Bave et d'Éternité. Et puis les films de l'entre-deux-guerres, bien sûr, ou même plus anciens encore, les films de Germaine Dulac, etc. Mais il est vrai que dans les années 60, tout cet underground cinématographique expérimental n'a pas encore émergé et Jean-Pierre Bouixou en est l'un des pionniers. Il est aussi d'ailleurs l'un de ceux qui, en plus de le pratiquer, commencent à le théoriser. Et c'est là où, à cette époque, Bouixou fait une rencontre décisive. Il en fera un certain nombre dans sa vie, celle de Philippe Bordier. Philippe Bordier, donc, qui est né tout à côté de Bordeaux, en l'occurrence fait des émissions pour la radio, l'antenne locale de l'ORTF, et lui aussi se passionne pour beaucoup de choses, le cinéma, la bande dessinée, la littérature, la poésie. Il sera d'ailleurs l'un des fondateurs plus tard du Salon de la bande dessinée d'Angoulême. Et Bordier va faire, avec Bouixou et une poignée de camarades, une structure qui s'appellera le Golem. La figure du golem, la figure mythologique du golem fascine beaucoup à l'époque Bouixou et Bordier, et qui va être une structure notamment de distribution de films. Et donc ils vont entreprendre d'aller montrer les films. Alors, ces fameux films, entre guillemets, underground, dont ils récupèrent des copies, en général de l'underground américain à l'époque, des films de Kenneth Anger, des frères Cuchard, de Stan Brakhage, voilà. Et ça va les amener, bon an mal an d'ailleurs, à aller en montrer notamment en mai 68 dans les usines et à son grand étonnement et pour pas dire à son grand ravissement, Bouixou va découvrir que les ouvriers sont tout à fait fascinés par les films underground américains, là où on aurait pu éventuellement craindre des réactions un peu de désarroi ou d'hostilité. Pas du tout, ils étaient effectivement assez médusés par ce qu'il voyait sur l'écran. Et ça va beaucoup marquer Bouixou. C'est des souvenirs comme ça de conversations avec des types, effectivement, en grève, qui ont abandonné la chaîne de montage et qui sont en train de regarder avec émerveillement des films expérimentaux américains.
Vous avez l'air de connaître magnifiquement bien ce sujet donc, de Jean-Pierre Bouixou. Est-ce que vous savez à quel moment il part à Bruxelles, pourquoi et comment ?
Alors, il part à Bruxelles dans la foulée.
Vivre, donc, je veux dire.
Oui. En fait, il y a un cheminement qui se fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis avec Bordier, etc., avec un break, comme on disait, un véhicule break, une voiture break, avec évidemment des bobines à l'arrière, puisqu'à l'époque, pour les jeunes auditeurs, il faut rappeler que les films en 16 mm, en 35, n'en parlons pas, c'est des boîtes lourdes, il en faut plein pour montrer des films. Et là, on est loin du fichier, de la QSB ou du disque dur. Et donc, ils font comme ça des périples. Et ils ont été à Nantes, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, parce que Nantes est évidemment en pleine effervescence grâce à un certain nombre de pro-situationnistes. Et puis, ils vont redescendre vers Paris. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça va permettre d'ailleurs à Jean-Pierre Bouixou de participer à un moment fameux, évidemment, des événements de mai 68, qui est la prise et l'occupation de l'Odéon. Où il recroise la route de gens qu'il avait vus à Sigma, qui sont les gens du Living Theatre, donc Julian Beck, Judith Malina, etc. Et puis, à partir de là, il y a un retour sur Bordeaux, mais qui en fait ne va pas durer, puisque son désir, c'est de partir s'installer à Bruxelles, où il part donc toute fin 68. L'automne 68, il part vivre à Bruxelles, où il va rester longtemps.
Deux ans et demi, trois ans.
Il va rester jusqu'en 75.
Oh non, c'est énorme.
Très très long. Bruxelles, là, il va faire tout de suite une autre rencontre. Alors, il y a évidemment le noyau que j'évoquais tout à l'heure, Philippe Bordier, Raphaël Maronjou, mais à Bruxelles, il va faire une rencontre, dans des circonstances d'ailleurs qui sont dignes d'un cartoon. C'est qu'il va très vite assister à une séance de projection à la Cinémathèque royale de Belgique, qui à l'époque est dirigée par Jacques Ledoux, qui va être d'ailleurs...
Qui est dans la jetée de Chris Marker.
Absolument, et qui va être une figure assez tutélaire d'ailleurs pour Bouixou, de personnage mythique, un des très grands cinémathécaires, sorte de voilà, le pendant d'Henri Langlois, avec lequel, mais qui n'a pas eu des relations d'ailleurs compliquées avec
mais Henri Langlois. Mais il ne lui ressemblait pas du tout au niveau du tempérament, alors pas du tout.
Et qui lui était un réfugié d'ailleurs de Pologne, en l'occurrence. Et Ledoux, en fait, donc, au cours de cette séance, on présente le film, il y a le film, etc. Et puis à un moment donné, Ledoux manque de trébucher, mais vraiment de s'étaler de tout son long, en se prenant les pieds dans une grosse sacoche en cuir, qui est celle d'un dénommé Noël Godin, qui est un jeune cinéphile fou aussi, qui ne se départit jamais de ces grosses sacoches de cuir, qu'il aura d'ailleurs tenues depuis toujours, et bon, aujourd'hui encore. Et donc, évidemment, la scène est digne, encore une fois, d'un film de Frank Tashlin ou d'un cartoon américain. Et là, se noue un dialogue entre ces deux garçons, qui ne se connaissent pas du tout, d'ailleurs, Jean-Pierre Bouixou et Noël Godin. L'amitié va être immédiate, les passions communes rapidement partagées, pour le cinéma bien sûr, et naturellement pour tout un ensemble de centres d'intérêt qui va les lier rapidement et qui d'ailleurs les aura liés tout le long de la vie.
Et donc là, il faut dire que Godin est l'entarteur qui est entarté cette fois à BHL.
C'est ça.
Et qui va aussi mettre le gloupier, qu'il écrit dans la presse catholique. La Belgique est un pays catholique qui a une forte censure au cinéma, c'est une royauté, et qui est une reine espagnole. Et donc, Godin écrit pour la presse catholique. Mais enfin, Télérama était aussi un journal, encore à l'époque, très catholique en France. Et donc, il va mettre le gloupier, comme Jean-Pierre, dans ses articles.
Alors, Godin, effectivement, vit, lui, à l'époque, en écrivant pour le Télémoustique, qui est le Télé 7 jours belge. Et comme le Télémoustique se vend essentiellement par abonnement, bah, des familles...
Ça ne fait pas penser au catholicisme.
D'obédience catholique. La presse catholique a toujours une très très grosse tradition d'ailleurs de l'abonnement. Témoignage chrétien, La Vie, et évidemment Télérama, Radio Télé Cinéma, qui on appelait le programme de télévision des cathos de gauche. Bref, en tous les cas, pour revenir à Télémoustique, donc Noël Godin écrit dans le Télémoustique, et ce qui est très marrant, c'est que pendant des années, il écrit des choses totalement fausses. Ça l'amuse follement de faire des critiques de films qui n'existent pas.
Il va y avoir un jingle, vas-y. Parle.
Oui, ça l'amuse follement de comment dirais-je de parler de films qui n'existent pas ou d'inventer purement et simplement des interviews, ce qu'avait d'ailleurs fait son cher Jean-Luc Godard dans les années 50 dans Les Cahiers. Et en fait, pendant des années, personne en fait ne réalise que Godin en fait chronique des films fantômes, tout simplement parce qu'encore une fois, voilà, le lectorat mais pas forcément un lectorat très cinéphile, et donc ne se rend pas compte qu'en fait, 9 fois sur 10, il parle de films qui en fait n'existent pas du tout.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
À toi.
Et donc, maintenant, il faut effectivement faire un tout petit flashback sur l'entrée de Jean-Pierre Bouixou dans l'écriture, non pas, journalistique pour gagner sa vie pendant qu'il est journaliste à La France à Bordeaux. Mais très vite, très tôt, il va être l'un des pionniers du fandom français. Alors, quelques mots rapides d'explication pour les jeunes auditrices et jeunes auditeurs. C'est que ce qu'on appelle le fanzine, qui va émerger dans l'Amérique de l'entre-deux-guerres, arrive vraiment au début des années 50 en France, notamment à travers le fanzine de Jacques Sternberg et Philippe Curvel, qui s'appelle Le Petit Silencier Illustré, ou le Potlatch de Debord et ses camarades, de l'International Lettriste. Et en fait, au début des années 60, Jean-Pierre Bouixou s'aperçoit que ce qu'il passionne, en particulier la science-fiction, la bande dessinée, le cinéma, apparemment ça passionne d'autres gens qui, avec une Roneo, font des petites publications à quelques dizaines, quelques centaines d'exemplaires, en particulier Lunatic, mais aussi Mercury, qui peuvent mêler à la fois des chroniques, des articles, des petites études, et aussi évidemment des textes de fiction, des contes, des nouvelles, et des dessins. Et en fait, Jean-Pierre va rentrer assez rapidement en contact à la fois avec François Ostenrath qui fait Lunatic, ce qui va lui permettre d'ailleurs d'échanger notamment avec une figure assez étonnante qui est l'écrivain Pierre Gripari, l'auteur notamment des contes de la rue Broca, qui publie d'ailleurs dans Lunatic des contes brefs, et puis aussi avec Gérard Thomé et Jean-Pierre Fontana qui font Mercury. Et là, il y a une date charnière, c'est qu'à l'automne 1965, Jean-Pierre Bouixou, qui avait déjà écrit un certain nombre de textes dans Mercury, notamment sur le fantôme du Bengale, puisque Bouixou avait une passion profonde pour la bande dessinée, l'univers des comics et américains, va concocter, avec notamment la complicité de Jean-Claude Michel et de Raphaël Maronjou, un numéro bis, comme on dit, tout simplement parce que c'est une sorte de hors-série qui va être consacré à Boris Karloff. Et c'est vraiment ce qui va le mettre, je dirais, d'abord c'est le premier opus dans la chronologie, c'est la première publication en France entièrement dédiée au cinéma, enfin à un aspect du cinéma bis, en l'occurrence à l'acteur, à la carrière, à la filmographie de Boris Karloff. Et c'est ce qui va en fait vraiment mettre le pied à l'étrier concernant Bouixou, de se dire, bah oui, voilà, en parallèle effectivement de ce que je dois écrire pour manger, je peux aussi écrire sur ce qui me passionne totalement. Ce qui fait qu'en toute logique, une fois qu'il arrive à Bruxelles, et fort au plus que de la bienveillance, même de l'estime, très vite, très tôt, que Jacques Ledoux va avoir pour lui, il va se retrouver avec Roland Le Thème à la manœuvre d'un catalogue collectif consacré à la science-fiction au cinéma, que préfacera Jacques Ledoux, donc qui est une très grosse publication, renéotée, et qui va à la fois lui permettre d'être accueilli à bras ouverts par Bernard Charder, donc le fondateur de la revue Positive, dont l'épouse jouait dans Ça t'embouche un coin. Bernard Charder a donc, à partir du moment où Positif, publication revue de cinéma lyonnaise, est devenue parisienne, publiée par le Terra Vague, par Eric Loisfeld, a créé une collection de monographies qui s'appelle Premier Plan. Et avec Bouixou, effectivement, ils vont s'entendre sur le fait de consacrer un volume au mythe de Frankenstein au cinéma. Et donc en 1969 arrive ce numéro de Premier Plan, et là pour la première fois Bouixou se retrouve édité, voilà, par une maison d'édition, en plus par un interlocuteur en tant qu'éditeur qui est une figure évidemment extrêmement respectée, admirée, Bernard Charder étant, qui nous a quitté il y a pas très très longtemps d'ailleurs, qui est effectivement une figure mythique, fondateur de la revue Positive, et puis par la suite, fondateur de l'Institut Lumière de Lyon, etc. Bon, donc un personnage mythique et central. Et en fait, ça va être vraiment, voilà, ça c'est vraiment une étape fondatrice. À ce moment-là, Jean-Pierre va rejoindre, à l'invitation de Jovan Cottom, la rédaction du magazine Ciné-Revue. On oublie souvent que Ciné-Revue, Ciné-Télé-Revue est la plus ancienne revue de cinéma au monde, puisque créée en 1928 et toujours présente dans les kiosques en France et en Belgique, d'une publication en l'occurrence effectivement à la base belge. Et En ce début des années 70, Ciné Revue est un hebdomadaire qui vend en vente cumulée entre la Belgique et l'Hexagone à peu près 250 000 exemplaires. Donc c'est colossal.
Oui, tout le monde le lisait.
Tout le monde le lisait.
Il y avait des pin-ups dedans.
Il y avait des pin-ups, il y avait
les
photos de Angelo Frontoni, notamment en double page centrale. Il y avait toujours une pin-up. Et puis des tas d'articles. Van Cottom avait effectivement, dès les années 30-40, multiplié les séjours aux États-Unis. Il s'était lié profondément d'amitié avec Walt Disney, beaucoup de patrons de studios américains. Et donc il avait effectivement des informations qu'on trouvait nulle part ailleurs sur les films qui allaient se tourner et puis sur la vie des stars et en fait Bouixou, déjà sous son nom mais aussi sous pseudonyme, on reviendra sur la question des pseudonymes avec Jean-Pierre Bouixou, va publier inlassablement des articles dans Ciné Revue. Il en devient l'un des contributeurs principaux et jusqu'à son départ de Bruxelles en 1975, il en est authentiquement le pilier. Il en est le pilier à tel point d'ailleurs que Joe Van Cottom, déjà à l'époque, commençait à réfléchir à sa succession possible et on viendra d'ailleurs à proposer à Bouixou de devenir rédacteur en chef de Ciné Revue, ce que Bouixou refusera puisqu'à l'époque il ne veut pas être chef.
Nous allons faire une petite pause musicale maintenant. Je suis avec Laurent Chollet et nous rendons hommage à Jean-Pierre Bouixou qui vient de nous quitter. Et maintenant, nous allons avoir l'habituelle pause musicale de moitié d'émission.
Quand le baromètre s'amuse à monter pour annoncer l'été et les vacances, en frappant le sol de mes souliers cloutés, ici je viens goûter ma récompense. La bonne auberge du Cheval Blanc, séjour aimable et troublant, pour toi le bonheur s'apprête, au seuil de la porte il te guette. C'est l'amour, ami, qui t'arrête à l'auberge du Cheval Blanc.
Au sommet des monts comme au flanc des coteaux, le soleil est plus beau, plus doux c'est l'heure. Ô mon tendre ami, vous voici revenu.
Nous sommes donc toujours dans La vie est un roman sur Allegre FM 93.1 et nous rendons hommage à Jean-Pierre Bouixou. Et il a fait tellement de choses dans sa vie, il y aurait tellement de choses à dire que j'espère qu'on va y arriver quand même. À vous Laurent.
Alors La vie est un roman et c'est vrai que là en l'occurrence c'est le roman de Jean-Pierre Bouixou et c'est formidable quoi. On a eu le plaisir d'écouter cet extrait d'opérette, car l'opérette occupera une place importante dans la vie de Jean-Pierre Bouixou. dans ses toutes jeunes années d'adolescent, quand il a 15, 16, 17 ans, 18 ans, il a fait énormément de figurations au théâtre de Bordeaux, où effectivement l'opérette est un genre roi dans les années 50, fin 50, tout début 60, ce qui lui a permis d'être sur scène avec, plus d'une fois, avec Luis Mariano, Bourville, Annie Cordy, Georges Guettari, Fernand Sardou, et évidemment le prince de l'opérette, Luis Mariano. Et ça nous amène exactement au moment où, au milieu des années 70, Jean-Pierre Bixou décide de quitter Bruxelles, où il s'était installé à la fin de l'année 68, pour Paris, et où sa compagne est à l'époque la meilleure amie en France d'Elton John. Et chaque fois qu'Elton John vient en France, évidemment, indéfectiblement, elle est là. Et donc, à un moment ou à un autre, Jean-Pierre Bixou est là. Et un soir, il va y avoir un moment irréel, à savoir que Elton John donne 3 concerts à Paris, ce milieu des années 70, et le premier soir, dans la suite de son hôtel, il y a un cocktail qui est organisé, il y a tout Paris, il y a Michel Drucker, il y a toute la presse, il y a les patrons des maisons de disques, etc. Et puis, comme c'est une suite, évidemment, il y a des portes de séparation, et puis dans une autre partie de la suite, il y a un piano, et en fait, au piano, il y a, en l'occurrence, Elton John et son ami, le Beatles, George Harrison. Et à ce moment-là, Catherine, Philippe Gérard et son compagnon Jean-Pierre Bouixot arrivent. Et tout d'un coup, et rapidement, ils vont se mettre à siffloter des airs de la fameuse opérette L'Auberge du Cheval Blanc, qui est une passion commune, évidemment, et ça, Bouixot ne pouvait pas l'imaginer, et partagée entre Elton John et George Harrison. Et ils se mettent à chanter des morceaux de tous ensemble,
c'est
les quatre.
Fabuleux.
L'Auberge du Cheval Blanc. Et alors, il y a l'attaché de presse qui, au bout d'un moment quand même, Elton John se faisant attendre depuis un bon moment par les gens qui l'attendent impatiemment une coupe de champagne à la main, vient évidemment, on a l'air de dire, vous savez que vous êtes très très attendu. Et il l'envoie effectivement sur les roses en lui disant, je suis très très occupé. Donc il a fini, je crois, par apparaître d'Elton John dans le cocktail, mais avec au moins une bonne heure de retard, je crois, le temps quand même d'épuiser quand même les standards de l'Auberge du Cheval Blanc.
C'est excellent.
Et alors
donc,
à l'époque,
on était à son retour à Paris.
Ce retour à Paris,
il a fait un livre sur la science-fiction.
Alors voilà,
dans les tout premiers 10-18.
Christian Bourgois a effectivement été enthousiaste à l'idée de publier un livre sur la science-fiction au cinéma. Il faut dire que la bibliographie à l'époque en France n'est pas étouffante. Le livre est né du travail qu'il avait donc fait à la fin des années 60 avec ce catalogue pour la Cinémathèque royale de Belgique. Et il décide d'approfondir le sujet et il va faire un livre somme qui, à l'époque, va être en 1974 un choc pour beaucoup de gens. D'abord parce que la collection 10-18, elle est extrêmement bien diffusée. Donc on voit les volumes 10-18 partout. C'est un gros volume, parce que 10-18, il y a des petits étoilages qui faisaient. C'est toujours le cas, mais le prix variait en fonction évidemment de la pagination, donc du nombre d'étoiles, 2, 3, 4. Bon, là, c'est vraiment un très gros volume dans lequel Jean-Pierre, effectivement, revisite à la fois l'histoire de la science-fiction avec, évidemment, en chroniquant énormément de films classés par thème, etc. Et puis le livre se termine par une série d'entretiens. Et à l'époque, c'est d'autant plus un choc que, surtout au moment où le livre paraît, qu'on découvre que tout d'un coup, il ne respecte absolument pas les canons classiques de la cinéphilie. Il les trie avec une violence rare, 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, qui était une vache sacrée, effectivement, que personne n'osait, en tous les cas au milieu des années 70, attaquer. Il porte au nu des tas de films, y compris des films de série B, des films de série Z. Et puis surtout, il y glisse, et ce qui, moi, au moment où je vais lire le livre dans les années 70, va être en choc, il y glisse tout un tas de films, justement, expérimentaux. Alors, notamment de gens avec lesquels il a compagnonné, non pas parce que ce sont ses camarades, mais tout simplement parce qu'il considère que ce sont des films essentiels dans l'histoire du cinéma, les films de Jean-Pierre Lajourna, des films de Philippe Bordier, et qui vont se retrouver chroniqués, et ce qui va permettre évidemment à énormément de lecteurs, puisqu'à l'époque, encore une fois, c'est des gros tirages, 10-18, de découvrir des noms de cinéastes dont on n'a jamais entendu parler, des films dont on a naturellement, puisqu'ils sont sortis hors du cadre d'exploitation classique, c'est des projections évidemment alternatives dont on n'a jamais entendu parler non plus. Et donc, c'est vraiment ce livre qui va mettre pour la première fois la lumière sur un pan d'un nouveau courant cinématographique qui est ce courant expérimental, underground, voilà, qui s'est développé en France depuis la fin des années 60.
Et donc ensuite, il va faire un magazine Froufrou, est-ce que c'est assez tôt
Alors, dans l'intervalle, il rejoint la rédaction de Zoom. Zoom était une revue absolument splendide, sans doute une... Comme dit la fille du dessinateur Hugo Pratt, Sylvina Pratt, dit toujours, c'est la plus belle revue en termes de qualité d'impression de l'histoire de l'édition française. Zoom était une revue de très grand format qui avait été créée par Michel Kahn, un des cofondateurs de la revue Midi Minuit Fantastique. Et Zoom était donc, comme son nom l'indique, une revue consacrée très largement à la photographie, mais voilà, s'intéresser aussi à des modes d'expression connexes, et en particulier au cinéma. Et la revue Zoom abrite à l'époque, très largement évidemment, la plume de Noël Simsolo, mais aussi celle de Jacques Boivin, complice, il en a été aussi, de Jean-Pierre Bouixou. Donc ça, c'est vraiment une collaboration régulière. Dans le même temps, Bouixou va faire une autre rencontre qui va être précieuse pour la suite de sa vie professionnelle. C'est celle, en fait, de Patrice Sénart. Patrice Sénart était lui aussi un cinéphile et quelqu'un de polyvalent qui, en fait, s'était lié avec un trio d'éditeurs qui était installé Passage Jouffroy, Les Jars d'Or, qui publiait toute une flopée de revues, de petits magazines, en général ayant un lien d'une manière ou d'une autre avec la plupart du temps l'érotisme. On est quand même dans la France du mi-temps des années 70, de la libération sexuelle, le moment où la loi X va arriver effectivement pour surtaxer d'un point de vue fiscal le cinéma dit pornographique. Et en fait, Patrice Sénart a convaincu les tenants donc du Passage Geoffroy, donc de cette maison d'édition qui s'appelait Les Jars d'Or, de créer une revue qui s'appelle Sextar System, qui est entièrement consacrée au cinéma érotique, dont il est l'un des principaux contributeurs avec sa compagne Brit Nenny. Et c'est dans cette revue que Jean-Pierre Bouixou va aussi énormément écrire de chroniques de films, faire des interviews, etc., etc. Puisque là, on est vraiment 75, 16, voilà, on est dans l'âge d'or, effectivement, en France, du cinéma érotique et du cinéma dit pornographique. Et en 1978, cette fois-ci, Bouixou parvient à convaincre la maison d'édition de créer une nouvelle revue qui s'appelle Fascination. Que Jean-Pierre va donc mener de front pendant 8 ans. Et Fascination est une revue consacrée à l'érotisme, on va dire au curiosa, c'est le sous-titre, c'est-à-dire le musée secret de l'érotisme. Aujourd'hui, on dirait l'érotisme vintage. Donc, tout le contraire de ce qu'était Sextar System, qui était une revue consacrée à l'érotisme, qui était en train de se faire, notamment au cinéma. Et dans Fascination, justement, puisqu'on disait tout à l'heure que Bouixou était l'antithèse du monomaniaque, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma, la littérature, la poésie, le graphisme, la peinture, la sculpture, tous les moyens artistiques et culturels à travers lesquels l'érotisme a pu être s'exprimer à un moment ou à un autre de l'histoire.
Et il écrit tous les articles sous des pseudonymes différents. Alors, et il dispose d'un fond de photos qui est dans la galerie où il y a le musée Grévin, là sur les grands boulevards, qu'il a à disposition. Donc il fait tout seul et c'est vendu en kiosque, et très bien vendu en kiosque. Hein.
Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait il écrit à part quelques articles qui ont été confiés, une fois à Noël Godin, une autre fois à Monica Swin.
Oui.
Mais il écrit sous une flopée 15-17 pseudonymes, la totalité du contenu de l'édito jusqu'aux recensions, enfin de numéros de livres, etc. Il écrit tout le magazine, qui est un trimestriel seul. Voilà. Et il a effectivement, grâce au fonds d'archives par ailleurs de la boutique que possède Passage Jouffroy, la maison d'édition, c'est une revue consacrée, une boutique pardon, consacrée au cinéma, qui avait des kilos d'affiches, de photos d'exploitation, mais pas seulement, qui avait récupéré des tonnes d'archives. Donc il passe son temps un peu comme un archéologue à fouiller des montagnes de documents, à les classer, etc. Et j'ai longtemps conservé d'ailleurs une valise qui avait une portée symbolique, puisque pendant de longues années, une fois qu'au bout de 3 mois, Bouixou avait fini de préparer le numéro suivant, comme on dit, il mettait tout dans une valise en carton, insoulevable d'ailleurs déjà, avant même qu'elle soit remplie, bien qu'en carton, mais quand même voilà, très épaisse. Comme il valait mieux d'ailleurs, vu ce qu'il mettait dedans. Et il arrivait, il traversait Paris, et il arrivait, passage Geoffroy, avec le contenu, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de PAO, il n'y a pas rien de tout ça. Donc une maquette, ça se fait avec du scotch, un cutter, de la colle, voilà. D'ailleurs, de temps en temps, d'ailleurs, il était un peu, évidemment, au bord de l'infarctus, parce que le graphiste, qui lui n'avait aucun état d'âme, pouvait mettre un coup de cutter dans une photo de film, tout simplement, pour la coller sur la maquette, bon, sans se préoccuper, évidemment, du devenir du document d'origine, voilà. Et donc, cette revue 78-86, ça, c'est vraiment une aventure qui va, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, être marquée par un vrai succès de librairie. C'est-à-dire qu'à l'époque, Fascination, qui encore une fois est une revue consacrée à l'érotisme des temps anciens, aussi bien d'un point de vue littéraire que d'un point de vue visuel, est une revue qui vendait en moyenne 8000 exemplaires au titre, ce qui laisse songeur par rapport à ce qu'est la presse aujourd'hui. Et tout d'un coup, Jean-Pierre Bouixou, qui au tout début des années 60, à l'âge de 16 ans, se demandant ce qu'il faisait à Bordeaux, ce qu'il faisait dans cette famille, s'il n'y avait pas eu, c'est le fameux syndrome de l'enfant volé voilà, à la naissance ou de la confusion à la maternité. Quand il avait découvert Harakiri, avec notamment les romans photos au tout début des années 60, hein, les premiers photographiés par Lépinet avec Georges Bernier, alias le professeur Choron, et puis les dessins de Fred, complètement dingues, des 35 premières couvertures, s'était dit « Ah, mais je ne suis pas tout seul, en fait, il y a d'autres fous comme moi, quelque part, bon voilà. » Et puis un jour, et on est au milieu des années 80, l'aventure de Fascination commence à... voilà, on sent un peu la fin approcher. Et puis un jour, apportant toujours avec cette sacrée valise la matière du numéro suivant, ceux qui tenaient la boutique, comme on dit, disent à Bouixou: « Oh, il y a un type qui appelle depuis des semaines, mais c'est non-stop, on n'en peut plus. C'est Choron, il veut absolument te rencontrer, il veut absolument que tu travailles avec lui. » Donc voilà, ce rêve d'ado devenu réalité, Bouixou va croiser la route de Choron, qui effectivement va l'embarquer dans tout un tas d'aventures éditoriales de ce milieu des années 80, qui évidemment ne paye à peu près jamais. Et avec, me disait Bouixou, quelque chose de formidable, c'est que quand au bout quand même de plusieurs numéros et d'un amoncellement de piges non payées, on lui disait, mais enfin Georges quand même, là vraiment j'en ai vraiment besoin, quoi, j'ai le loyer à payer et tout. Attends, j'arrive. Alors Choron venait avec son assistant, emmenait Bouixou manger la tour d'argent, évidemment là il l'invitait, mais à la fin il dit, bah, tu comprends, la période est difficile, donc il va falloir que tu patientes encore pour que je puisse te payer tes piges. Voilà. Et puis, c'est là que Jean-Pierre va tout d'un coup, grâce encore une fois à Fascination, qui dans son lectorat, il y avait des tas de gens qui lisaient Fascination et des gens qui voilà, travaillaient dans la presse, dans l'édition, dans les médias, etc., etc., va tout d'un coup se retrouver sollicité par le groupe Philippe Aki pour prendre les pages art de la revue Penthouse. Donc pendant 2-3 ans, il va faire entre 2 et 3 doubles pages par mois sur les expositions. Là, c'est vraiment très très ciblé. C'est vraiment graphisme, peinture, photographie. C'est un moment, voilà, cette seconde moitié des années 80 où il y a tout un marché qui se développe autour de ça. Et puis c'est ce qui lui permet à ce moment-là d'être sollicité pour rentrer au sein de la rédaction de Paris Match, où il va rester plus de 36 ans.
Il va faire du rewriting.
Il va être le principal, authentiquement, rewriter à Paris Match, un service que dirigeait Daniel Georget, et qui va très vite, très tôt d'ailleurs, susciter l'admiration de vraiment tous les journalistes de Paris Match, et en particulier de celle qui est celui qui est le grand, grand patron, évidemment, mythique, de Paris Match, Roger Théron, bon voilà, mais Franck Thénault aussi, etc. Enfin, vraiment les alors là pour le coup les classiques de l'hebdomadaire voient très vite que Bouixou a une capacité hors norme et un talent inouï pour reprendre un texte, le compresser, lui donner un meilleur effet.
En parallèle, il y a le cinéma érotique.
Alors, parallèlement à ça...
C'est pas en suivant, c'est en parallèle.
Parallèlement à ça, il y a le cinéma érotique. Il se trouve que Jean-Pierre s'est lié d'amitié avec le cinéaste français Jean Rollin. Rollin avait réalisé son premier film en 1968, Le viol du vampire. Et Bouixou lui avait envoyé une lettre en lui disant qu'il avait vraiment beaucoup aimé ce film et qu'il y voyait un grand film anarchiste. Et Jean Rollin, qui était effectivement anarchiste, et sans doute, je pense, avec Ado Kirou, Bouixou avait été un des rares à voir la portée politique du film de Rollin. Il lui avait répondu aussitôt. Une amitié était née à partir de là, qui va être évidemment très très forte jusqu'à la disparition de Rollin. Et donc Jean-Pierre, grâce à ça, va avoir un peu toutes les fonctions auprès de Jean Rollin, suivant les films, tantôt assistant réalisateur, tantôt co-scénariste, tantôt acteur, tantôt...
Il fait un film entièrement à sa place en une journée.
Voilà, et puis un jour, Rollin lui dit, ah tu sais, je dois... Parce que Jean Rollin tournait aussi des films sous pseudonyme, notamment pornographiques. Puis un jour, il lui dit, tu sais, j'ai deux films à faire en trois jours, on peut peut-être trouver une solution, je serai ton assistant sur le tien et tu seras mon assistant sur le mien. Et c'est comme ça, effectivement, que Bouixou va réaliser entre Vite, Vite, Je Mouille, voilà, qui va être un film assez étonnant et devenu très culte, en particulier d'ailleurs grâce à
Nicole Brunez. Il joue aussi dans les films.
Bien sûr,
il joue
absolument.
Dans beaucoup de films.
Oui, oui, il est apparu dans beaucoup de films. Et puis, il y a toujours ce désir chez lui, justement, de jamais se laisser enfermer dans une case, tout simplement parce qu'encore une fois, depuis toujours, ses passions sont multiples et qu'il s'intéresse à tellement de choses qu'il n'a absolument pas envie de tout d'un coup de se retrouver cantonné juste à un aspect des choses. Alors au début des années 90, il va lui arriver en tant qu'auteur une aventure assez atypique avec l'ethnologue et journaliste et grand reporter qui à l'époque a jeté l'ancre à Paris Match, Pierre Delannoy. Il va en fait effectivement co-signer un livre qui s'appelle L'Aventure Hippie. À l'époque, Christian Bourgois, qui avait été son éditeur pour la science-fiction au cinéma et le patron des éditions Plon. Et c'est une assez jolie anecdote, puisqu'un jour, Delannoy et Bouixou viennent présenter ce projet de livre. Et en l'occurrence, il y a un éditeur qui les reçoit au sein de Plon. Et puis l'éditeur appelle quand même Christian Bourgois, qui est dans son bureau, en lui disant « Voilà, je viens de rencontrer deux auteurs qui me proposent un livre, etc. etc. » Et il a à peine le temps de dire Bouixou. On est quand même presque 20 ans après l'aventure de la science-fiction au cinéma. Hein, donc voilà. Et Bourgois dit « Ah, si c'est Bouixou, oui, vous signez tout de suite. » Voilà. Alors l'aventure démarre bien. Elle va connaître quelques soubresauts. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le livre sort. C'est un livre de texte. Le livre sort, c'est la grande époque du grand journal de Gildas à Canal+, etc. Bref, le livre sort, c'est à la fois un livre qui raconte l'histoire, mais qui en même temps est évidemment nourri aussi de l'expérience qui a été celle de Bouixou et de Pierre Delannoy, distinctement, mais à pareille époque, au sein du mouvement, enfin de ce mouvement contre-culturel et hippie en
oui,
France.
Oui, il dit qu'il ne s'identifie pas du tout aux hippies, mais c'est Delannoy qui lui prouve qu'il a quand même participé à la chose.
Exactement. Et le livre est dans les meilleures ventes. Et à ce moment-là, hop, changement de direction chez Plon. Christian Bourgois est remercié de sa participation au sein du groupe des Presses de la Cité. Olivier Orban arrive à la tête de Plon. Et hop, le livre part au pilon. Alors qu'en fait, il est sorti il y a moins de 3 mois. Donc ça va être un cas un peu historique dans l'histoire de l'édition française. Deux auteurs. Auteur d'un livre qui est dans les meilleures ventes, qui se retrouvent de nouveau avec les droits de leur livre, puisqu'en l'occurrence, la maison d'édition ne veut plus en poursuivre la commercialisation, tout simplement parce que le livre avait été initié, si j'ose dire, entre guillemets, en tous les cas, souhaité, désiré par Christian Bourgois. Et c'est grâce à Michel Sidbon, qui à l'époque cumule les maisons d'édition entre les éditions d'Agorneau, les éditions du Lézard et la collection L'Esprit Frappeur. C'est grâce à Michel Sidbon et Jussi Zuccato que l'aventure hippie va, en 95, être de nouveau édité, et cette fois-ci sous la forme d'un livre illustré.
Magnifique, hein,
voilà,
très, très beau
superbe.
Livre.
Voilà,
couverture en cuir.
Qui connaîtra une nouvelle édition en 2001, augmentée, superbe édition. Et c'est un livre, bon, c'est commun de le dire, mais c'est un livre culte aujourd'hui. Parce que
il est très très bon.
C'est, en plus, c'est véritablement le seul livre en français.
Souvent, ces livres sont niais, et celui-là n'est pas du tout niais, totalement bien fait. Enfin, c'est parfait. Il y a le travail journalistique dedans qui est vraiment bien.
Oui, et puis il y a une chose qu'il faut...
vécu.
Au cours de cette évocation du roman de Bouixou, c'est sa plume. C'est-à-dire que Jean-Pierre, ce qui a même fait, encore une fois, ce qui a pu fasciner des tas de gens, y compris de gens d'ailleurs, qui peut-être humainement ne l'appréciaient pas ou étaient en désaccord politique avec lui, etc. Mais c'était à la fois sa propre plume, qui était quand même extraordinaire. Et puis encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure dans ses fonctions professionnelles à Paris Match, c'était son regard et sur la plume des autres et à quel point justement il pouvait être précieux. Précis et précieux, justement, pour avoir, tout d'un coup, repeigné un nombre absolument inimaginable, d'ailleurs, d'articles, et donc écrit par d'autres, bien sûr. Mais qui fait que, après être passé entre ces fourches, c'était mieux. Voire même parfois beaucoup mieux, d'ailleurs.
Et donc, il y a ce livre sur les hippies, et ensuite, il y a encore beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses.
C'est littérature érotique là, qu'il écrit pour
la Musardine.
Oui,
c'est-à-dire que, absolument, il va, en fait, dans les années 70, on ne peut pas, évidemment, ne pas l'évoquer, il va écrire nombre de textes érotiques, et en particulier pour les éditions Henri Verrier, qui ont créé, en fait, des sous-marques, des imprints, qui sont deux collections, Bébé Noir et La Brigandine, qui était en l'occurrence dirigé et entièrement géré par Jean-Claude H, qui était un personnage merveilleux et lui aussi issu de la mouvance prosituationniste. Et donc Jean-Claude H va publier plusieurs dizaines d'ouvrages, dont deux d'ailleurs, alors tous sous pseudonyme. Donc il y en a de Pierre Laurendeau, il y en a deux de Raoul Van Eghem. Et Jean-Pierre Bouixou va en publier une quinzaine, toujours sous une flopée de pseudonymes, qui sont des romans toujours à mi-chemin entre l'érotisme, l'horreur, théoriquement le polar, en tous les cas. Enfin, des romans extrêmement personnels, très très cultes. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est les romans de Bouixou qui ont vraiment donné envie à Virginie Despentes de se mettre à l'écriture. Ce qui fait d'ailleurs que par tout un jeu de ricochets, trois d'ailleurs d'entre eux seront réédités par la suite, des romans de Bouixou écrits sous pseudonyme. Et je pense qu'effectivement, on disait tout à l'heure qu'il avait très tôt utilisé les pseudonymes. C'est un aspect d'ailleurs que j'ai toujours trouvé à la fois intéressant et assez significatif aussi. C'est-à-dire que sur lequel, je pense, Jean-Pierre ne s'est pas interrogé, mais indépendamment du fait qu'il ne pouvait pas, quand on parlait par exemple de la revue Fascination, évidemment, mettre son nom à toutes les pages, donc nécessairement, il fallait qu'il y ait des pseudonymes, même si son nom apparaissait aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui relève de presque de la pratique de l'hétéronyme chez Pessoa, c'est-à-dire que oui. Je pense que chez Bouixou, en fait, c'est...
Ça a aidé pour l'inspiration, et un jour, il n'arrive plus à écrire du tout. Il est à court de pseudonymes, de une espèce de choses... C'est une danse, quoi. Il y a quelque chose.
Oui, et puis il y a quelque chose.
Avec des peintres et des musiques différentes. Il y a aussi des alexandrins dans ces livres érotiques, etc. Enfin, il y a un travail sur l'écriture, un travail.
Permanent. Permanent, puisque c'était quelqu'un qui.
Un travail sur les sources.
C'est, non seulement c'est quelqu'un qui voyait un nombre de films inimaginable, possiblement plusieurs par jour, mais qui lisait aussi quantité invraisemblable de livres. Ah oui. Et d'ailleurs. Un des derniers messages qu'il m'a envoyé, il n'est pas très vieux, il m'a dit, bon, ce qui a occupé 80% de mon temps depuis des mois, c'est que je viens de télécharger 4000 films. Et en fait, c'est ça qui était absolument extraordinaire.
Il y a un documentaire sur Jacques Noël où on voit, et donc c'est un libraire pour nous qui était très important, qui était à la place de l'Odéon.
Un regard moderne.
Et Jean-Pierre parle de son addiction à la lecture, vraiment comme un junkie parlerait de la poudre. Il a les yeux qui brillent et quelque chose d'assez beau.
Et la découverte, c'est-à-dire que...
Ah oui, Jacques Noël était pour lui un mentor.
Voilà, c'est-à-dire que toute une découverte, une redécouverte, quelque chose...
L'exploration.
Et une sorte de ce côté-là, une sorte de boulimie. C'est-à-dire, c'était une aventure sans fin. Quand il m'envoie... dans un de ses derniers messages, le fait qu'il vient de télécharger 3980 films en quelques mois. C'est-à-dire que tout l'intéresser. Sa curiosité fait que tout l'intéresser. Du cinéma d'auteur, du blockbuster, du cinéma expérimental, de la série B, un film malais, un film islandais, un film tamoul. Voilà, tout pour lui, il aurait voulu, voilà, dans l'absolu, avoir eu le, voilà, mille vies pour
mais
tout voir.
Mais il a gardé jusqu'à la fin cette...
Jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, ce désir très fort.
Jusqu'à la fin, il n'y a jamais eu de... Voilà, c'est pas quelqu'un qui, à un moment donné, a considéré qu'il avait fait le tour d'un sujet ou d'un thème ou d'une époque. Voilà.
Écoutez, merci, on aurait encore tellement de choses à dire. Nous étions dans La vie est un roman avec Laurent Chollet. Nous avons parlé de Jean-Pierre Buxou, qui malheureusement vient de décéder à l'âge de 79 ans. Merci à Didier, qui est de l'autre côté de la vitre. Merci, mon cher Didier.
Écoutez Aligre FM 93.1.